RCF. RCF, tous mélomanes.
Au micro Jacques Nouvier, bonjour. Nous allons accueillir aujourd'hui Éric Rouillet. Éric, bonjour.
Bonjour.
Et on va parler des symphonies de Bruckner, et en particulier de Bruckner de manière générale, puisque Bruckner en fait son bicentenaire cette année. Alors, la question qu'on se pose, vous avez intitulé votre émission « La tradition dans l'interprétation des symphonies de Bruckner est-elle fidèle aux intentions du compositeur ?» Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ça veut dire beaucoup de choses. C'est surtout un titre un peu, à mon avis, un peu plus polémique qu'énigmatique, parce que les symphonies de Bruckner posent une question. Elles posent une question beaucoup plus que pour d'autres compositeurs, quant au sens de l'interprétation, avec des différences d'approche et de conception qui permettent de passer, par exemple, pour la 8e symphonie que nous allons écouter, et suivant les éditions, d'une durée d'environ 1h10 jusqu'à près de 1h40. Alors le compositeur pouvait retravailler lui-même ses partitions à cause du doute, parce qu'il avait beaucoup de doutes, et aussi de la complexité des œuvres, mais aussi de conseils d'amis, d'éditeurs qui ne comprenaient pas toujours la dimension de ses symphonies. Il était organiste, il adorait les grands espaces sonores qui s'élèvent vers le ciel, avec une foi irrémédiable, puisqu'il devait dédier sa 9e à Dieu. Il possédait, et il faut jamais l'oublier, l'âme d'un paysan, croyant, né en Autriche en 1824 et mort en 1896. C'est, comme vous l'avez dit, le bicentenaire de sa naissance qui provoque l'idée de notre émission.
Alors, passer pour une même symphonie de 1h10 à 1h40, c'est quand même assez surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le mécanisme pour écrire ça?
Alors, il y a eu des tours de magie, de beaux tours de magie, mais de mauvais tours de magie. Il peut s'agir surtout d'un détournement de la personnalité du compositeur au profit d'une représentation que peut se faire un chef d'orchestre, de ses intentions. La tradition, toujours cette tradition, se rassure aujourd'hui avec des interprétations lentes, censées appuyer le format spirituel des œuvres, qui finissent parfois même par ressembler à un étalement de paresse métaphysique. J'ai dans mon patrimoine de référence un chef, Tchelibidak, qui fait aujourd'hui référence, qui est d'une lenteur qui, moi, me gêne. Voilà. Alors, il paraît que ce sont des lenteurs métaphysiques exceptionnelles. J'admets que ce soit une possibilité, mais moi, elle ne me convient pas. C'est une habitude, ce statisme, qui est censé glorifier la quête de Bruckner, qui date après la Deuxième Guerre mondiale. Elle est validée par le succès auprès des mélomanes, mais ils ont été habitués à n'écouter que cela pendant de longues années. Souvent, on sombre dans la nuit, le malentendu, en défendant cette piété dans un allongement de la durée, et ça ressemble souvent à une sorte de chewing-gum de la temporalité.
Voilà. Finalement, on étire toute la parole musicale, toute la phrase, tout le temps de l'écoute, quoi, finalement. Tout est étiré.
On rentre dans un statisme où on s'est dit que c'est dans l'immobilité qu'on va puiser la grandeur métaphysique de l'interprétation de l'œuvre. Pour moi, c'est un malentendu. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure.
D'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'on va écouter pour se rendre compte de ça?
Comme antidote, je propose qu'on écoute une interprétation qui fait polémique, que l'on adore ou que l'on déteste, par le chef argentin Carlos Paita. On le dénonce comme primaire, alors qu'il est primitif, ce qui est totalement différent, comme païen, comme charnel, et enragé même.
Enragé. Alors que Bruckner, c'est si pacifique quand on l'écoute. Et enragé, très bien, on va écouter ça alors.
Je dirais que moi, Carlos Paita, dirige comme un fidèle qui prie avec le glaive à la main. Voilà. Alors j'espère que nos auditeurs sauront de quoi je parle. Nous allons écouter le premier mouvement, le début du premier mouvement de la 8e symphonie de Bruckner.
Thank you.
Voilà, on abandonne tout doucement ce début de cette 8e symphonie d'Anton Bruckner avec le Philharmonic Symphony Orchestra sous la direction de Carlos Paita. Alors aujourd'hui, avec Jacques Nouvier et Éric Rouillet, nous intéressons à cette interprétation de cette musique de Bruckner. Il faut le dire, Éric, parfois, cette interprétation, elle est un peu controversée. On dit que c'est une vision trop engagée ou que le rythme est un peu inhabituel, outrancier, soit trop lent, enfin voilà. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Est-ce que ça a du sens déjà, cette critique?
Oui, tout le monde a raison. C'est un débat qui divise et qui permet de s'interroger. Alors évidemment, il y a de l'incompréhension, il y a parfois de l'hostilité. Je reviens à ce que nous disions précédemment. Il serait admis que la lenteur posséderait les vertus de l'élévation et que seul le statisme permettrait de prendre des pauses respiratoires reliées aux propulsions ascensionnelles. Ça, je l'ai lu. Voilà. Carlos Paita estime qu'il faut rentrer dans la partition à bout portant. Et non pas, comme on me le dit, par effraction. C'est faux. Et lui, il livre une véritable bataille pour délivrer le message. Voilà. Alors, il ne se soucie en rien des habitudes de la tradition et il creuse sa vision dans un engagement.
Et oui, c'est silence, c'est très personnel, quoi. Il s'approprie son Bruckner, finalement.
Il s'approprie son Bruckner. Et alors, je voudrais faire, un petit aparté. Je précise que Carlos Paita a enregistré une fois la 8e de Bruckner. Il a enregistré une seule fois la 5e de Beethoven. Il a enregistré une seule fois la 4e de Tchaïkovski. Carlos Paita n'a enregistré ses œuvres qu'une fois et jamais d'autres. C'est-à-dire que quand il enregistrait une œuvre, c'était pour la première et la dernière fois. Donc, il y avait l'initialité et l'ultimité.
Oui, comme s'il avait une sorte de réflexion personnelle, une maturité, et il livrait son interprétation.
C'est un engagement définitif. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, Furtwängler a enregistré 10-12 fois la 9e de Beethoven. Gadeschev qui a enregistré 3-4 fois l'intégrale des symphonies de Beethoven, de Brahms. Carlos Paita, c'était une unique fois. Donc, il est évident qu'il y a une quantité d'âme, qu'il y a un engagement qui ne peut être que supérieur à tout ce que les autres ont pu faire, puisque c'est unique, une seule fois. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire de la musique qui n'a fait, avec l'exercice ou l'épreuve de la vérité de l'enregistrement, qui ne se donnait qu'une seule chance. Et Carlos Paita est le seul par rapport à ça.
D'accord. Alors, vous n'avez pas amené que des interprétations de Carlos Paita. Je crois que vous êtes intéressé également à un autre chef.
Oui, alors, un chef pour qui j'ai beaucoup de fascination, camouflé également par les médias, qui a une vision très personnelle de Bruckner. Alors, lui, il est beaucoup plus nimbé de clarté, de poésie et même, je dirais, de senteur florale. Alors,
senteur florale.
Oui, alors ça vient
de... Il va falloir nous expliquer.
Mon habitude du vin. Voilà, il est très poétique. Voilà, il ne va pas affronter la partition, mais on comprendra pourquoi. C'est un chef que j'aime beaucoup, qui s'appelle Georges Tintner, qui est d'origine juive, qui était autrichien, qui était né en 1917, qui a été naturalisé néo-zélandais en 1946 et qui est mort en 1999 en se suicidant. Il souffrait d'un cancer, on ne sait pas trop s'il s'est suicidé pour des raisons personnelles ou par rapport à tout ça, je ne sais pas trop. Et en fait, après l'Anschluss, il s'était réfugié en Nouvelle-Zélande, puis en Écosse. Et là, le niveau général des orchestres avec lequel il était tellement en dessous du niveau des orchestres qu'il fréquentait en Autriche. Qu'il a été obligé de faire un travail tout à fait incroyable de pédagogie pour redonner
transmettre la tradition viennoise.
Viennoise, parce que je pense qu'il était amené à être le grand chef autrichien. Voilà. Sauf que, de façon étonnante, l'intelligentsia et les pouvoirs en place ne lui ont pas demandé de revenir. Donc, il est resté. Il a enregistré l'intégrale des symphonies de Bruckner avec l'orchestre néo-zélandais et l'orchestre écossais. Et moi, j'aime beaucoup. Et il a fait le même travail qu'a fait Bruno Walter avec l'orchestre symphonique de Columbia. Voilà. Donc, pour moi, c'est un homme valeureux qui a vraiment voué sa vie à la musique. Un vrai pédagogue qui était discret qui révèle un Bruckner totalement différent des autres. Et alors évidemment, on n'est pas du tout dans la même approche, dans le même format que Carlos Paita. Et c'est là où je dis que tout le monde a un peu sa place à partir du moment où on est sincère et où vraiment, quand les chefs sont au pupitre, ils sont habités par une véritable foi. Et Georges Tintner est habité par la foi. Je vous propose qu'on le découvre avec le début du 4e mouvement de la 6e symphonie de Bruckner.
Thank you.
va voir le...
Voilà un extrait de ce quatrième mouvement de cette sixième symphonie d'Anton Bruckner. C'était cette fois-ci le New Zealand Symphony Orchestra sous la direction de Georg Tintner. Alors une interprétation très différente, hein, Eric Houillet. Vous semblez pas tout à fait apprécier les versions un peu lentes ou lourdes. Est-ce que vous auriez un exemple à nous faire écouter pour qu'on comprenne ce dont vous parlez?
Je peux essayer de me risquer dans cette voie. Tout d'abord, il faudrait que je précise certaines choses. Il faudrait comprendre pourquoi dans Bach, la mode est aux versions baroqueuses, maigrelettes, tellement épurées qu'il n'y reste parfois qu'un spectre de musique, soi-disant au profit d'une restitution exclusive de l'âme. Je trouve souvent ces interprétations ennuyeuses et sans aucune émotion.
Vous voulez plus de gras, quoi, finalement, dans la musique?
Pas forcément. Alors, c'est bien là le problème. C'est une mode, là, du dégraissage qui permet à ceux qui n'ont pas forcément grand-chose à exprimer de faire illusion et de s'accorder les bonnes grâces de la presse. Voilà, c'est la mode. Voilà. Paradoxalement, dans Bruckner, cette conversion, cette évolution, cette contamination n'est pas la bienvenue. Pourtant, ces symphonies ne supportent pas d'être bâclées ou incomprises, à la différence, par exemple, de la 9e de Beethoven, qui, même jouée n'importe comment, plaira à tout le monde.
N'importe comment, c'est peut-être un peu excessif, mais d'y jouer de façon différente, on va dire. Voilà. Ne fâchons pas les auditeurs, quand même.
Non, ce que je veux dire, c'est que on allège aujourd'hui les interprétations de Bach, alors qu'on alourdit celles de Bruckner.
D'accord.
Et je ne comprends pas pourquoi on critique Carlos Paita, qui est un baroqueux, entre guillemets, bruckneirien.
Oui, d'accord, voilà. Je comprends. Oui.
Alors, pourquoi respecter la tradition chez Bruckner et l'obstruer chez Bach?
Alors, justement, vous avez une version qui est censée un petit peu illustrer ce que vous considérez comme un malentendu. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, justement, d'où la complexité de cette réflexion. Je vais me mettre en contradiction avec moi-même, avec le chef de la lourdeur, qui a tout enregistré dans Bach et que l'on considère aujourd'hui comme périmé. Voilà, il est mort jeune à 51 ans d'une crise cardiaque en 1981, alors que sa sonorité et ses disques donnent l'impression de dater de plus de 50 ans. Il a enregistré en 1977 la 4e symphonie de Bruckner, avec cette imprégnation du massif, de l'alourdissement qui donne l'impression que tout va s'arrêter. Il s'agit de Karl Richter. Et si vous voulez, nous allons écouter le début de la 4e symphonie de Bruckner avec cette impression que l'orchestre vraiment va s'écrouler. Et pourtant, avec cet interprète, cette vision surannée paraît digeste parce que, je crois, il possède un sens organique de l'œuvre. Une vision jamais spéculative, mais toujours habitée avec sincérité et dévotion. Je crois que ce qui fait sa caractéristique, c'est que par rapport à d'autres chefs, il n'a aucune vanité, il n'y a pas de nombrilisme, afin de mettre en avant sa vision. Voilà. Il n'est pas là pour raconter son histoire à lui, mais pour raconter l'histoire de la 4e de Bruckner. Avec d'autres chefs, avec cette lenteur, on a l'impression d'une flaque sonore. Avec lui, pas du tout. Il a cette empreinte de la dignité. Nous allons l'écouter que 3-4 minutes, et vous verrez à quel point il est dans une différence totale de vision par rapport à Carlos Paita. Et vous verrez pourtant à quel point, quelque part, ils communiquent tous les deux.
En tout cas, j'aime beaucoup ce que vous dites. Finalement, cette lenteur devient dignité, quoi.
Chez Karl Richter.
Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons écouter donc un extrait de cette fois-ci, c'est la 4e symphonie.
4e.
Voilà, on va reprendre les choses en main. Ça, c'était le deuxième mouvement. Et cette fois-ci, on va écouter bien le début du premier mouvement de cette 4e symphonie d'Anton Bruckner.
Thank you.
un extrait du premier mouvement de cette quatrième symphonie, qu'on appelle aussi symphonie romantique d'Anton Bruckner, avec le Radio Symphonie Orchestra de Berlin, sous la direction de Karl Richter.
Tous mélomanes, Éric Rouillet, Vérène Gribonval.
Voilà, et puis je suis également avec Schnack Nouvier pour cette émission aujourd'hui consacrée à ces symphonies de Bruckner et plus particulièrement à aux différentes façons, aux nombreuses façons d'interpréter donc cette musique, hein, une musique qui prend le temps, on l'a compris, une musique qu'on dit lente, vous avez dit digne, voilà, j'ai beaucoup aimé ce terme de dignité. Alors vraiment, là, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, Éric, c'est la matière sonore est vraiment très très différente pour le coup.
Alors moi, je pense que c'est carrément une façon de concevoir la musique qui est différente, avec des époques différentes, des orchestres, mais je reviens sur cette priorité de chefs qui savaient habiter les œuvres qu'ils interprétaient et qui avaient une histoire à raconter. Voilà. Et c'est ça qui me plaît chez Karl Richter, c'est que ses lenteurs sont supportables, elles sont belles.
D'accord. Alors ce Bruckner, justement, ce compositeur, finalement, est-ce que c'était un musicien qui était un grand théoricien ou c'était un intuitif lui-même quand il composait ?
Alors, les interprétations de Bruckner sont très complexes à appréhender. Il faut savoir qu'il commença sa véritable formation théorique à 30 ans, pour présenter ses premières symphonies vers 40. Alors, s'il était mort à l'âge de Mozart, il serait totalement inconnu et il aurait très peu composé. Voilà, sa vie quotidienne s'assortissait de complexes et d'inhibitions qui l'amenaient à douter de lui, jusqu'à remanier ses œuvres. Et puis, ses proches s'en sont aperçus et ils s'occupèrent de lui suggérer des améliorations pour rendre ses œuvres plus au goût du jour. Voilà. Et des élèves finirent même par remanier eux-mêmes les symphonies à son insu et après sa mort, en imposant leur vision et leur version aux éditeurs. Voilà. Alors, il s'agit d'une ingérence étrangère, pour reprendre une expression à la mode, les manuscrits originaux passant pour injouables à l'époque et dépassant souvent les capacités des orchestres et des chefs. Le monde n'eut ainsi accès aux symphonies de Bruckner que dans des visions défigurées, affaiblies et édulcorées des œuvres. Voilà. Et alors, jusqu'aux années 30, on avait un peu de tout, un peu n'importe quoi.
Voilà. Donc surtout des manuscrits retravaillés alors, oui. D'accord.
Voilà, un peu, alors je vais reprendre comme si c'était du wokisme avant-gardiste. C'est-à-dire que c'était très compliqué, il fallait faire des ruptures avec ce qu'il faisait parce que Bruckner allait trop loin dans la complexité des œuvres. Donc, on simplifiait tout. Voilà. Vers les années 30, il y a un musicologue qui s'appelait Robert Haas, qui s'est efforcé de restituer les originaux, à la différence d'un autre musicologue qui s'appelait Léopold Novak, qui lui était traditionnaliste et qui souhaitait que l'autographe le plus tardif puisse faire foi.
En disant la bonne version, c'est la dernière.
C'est la dernière, voilà. Donc, quitte à valider ce qui avait été rédigé sous influence extérieure, d'ailleurs.
Voilà. Oui, sur les conseils de ses collègues, de les contemporains, quoi. Voilà.
Et puis sur les conseils des chefs d'orchestre, de la façon de jouer et de faire passer ça avec beaucoup plus de facilité auprès du public. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut garder les éditions d'origine qui sont beaucoup plus compliquées, complexes et difficiles à appréhender, ou est-ce qu'il faut alléger et rendre ça accessible au public? Et le vrai débat est également ici. Alors,
on va pas répondre aujourd'hui, on va écouter quand même. Alors, vous avez une version à nous proposer, justement, qui est issue du travail de ce musicologue Haas, donc.
Voilà, Haas, qui a été un petit peu mis au pilori parce qu'on l'a accusé de complaisance avec le régime nazi. Et donc, on s'en est un peu détourné. Je reste très précautionneux par rapport à tout ça. En tout cas, Fort Wangler se servait des éditions Haas, Karajan également, et Carlos Paita a choisi aussi cette édition. Et je propose que nous découvrions le dernier mouvement de la 8e symphonie de Bruckner par Carlos Paita.
Thank you.
Voilà, c'était le début du quatrième mouvement de cette huitième symphonie d'Anton Bruckner avec le Philharmonic Symphony Orchestra sous la direction de Carlos Paita. Alors Éric Rouillet, vous aviez initialement prévu dans cette symphonie plutôt l'adagio, puis vous avez changé d'avis, mais il y a une raison. J'aimerais que vous nous expliquiez.
Oui, alors j'ai changé d'avis parce que les symphonies de Bruckner sont très longues. Chaque morceau dure très longtemps et à un moment, il faut faire des choix.
Mais c'était pas que ça, je
non,
crois.
Non, alors l'adagio, on doit l'écouter en entier. Voilà, on peut pas le couper. Et puis, surtout, je souhaitais rendre hommage à un Bruckner totalement inconnu du grand public et qui peut-être possède les clés de ce qu'il fut réellement en tant qu'homme. Mais pour cela, et de façon surprenante, et afin d'appuyer mes propos, je vais me rapprocher d'Igor Stravinsky, l'auteur du Sacre du printemps, de L'oiseau de feu et de Petrouchka, avec des œuvres géniales d'inventivité, et puis qui sont éloignées du vacarme de ces grands chefs-d'œuvre-là. Il s'agit de ces pièces pour musique sacrée, que l'on écoute que très rarement, et à mon avis beaucoup trop peu, qui changent le sens de son parcours. C'est des pièces qui durent entre 1 et 4 minutes, qui sont parfois d'une grande complexité d'écoute, et n'intéressent pas un public avide de sonorités spectaculaires. Voilà. Sa symphonie de psaumes est faite d'ombre, de nuit, ivre de mysticisme et je crois d'une désespérance froide envers l'humanité. Et cet homme de contradictions, de doutes et de reniements était, peu de gens le savent, il était humblement croyant. Stravinsky était un homme de foi, un homme d'une grande croyance. Et donc, je voudrais que nous puissions le découvrir dans le Sanctus et l'Agnus Dei de sa messe pour chœur mixte et double quintette avant, qu'il interprète lui-même.
Excelsior.
Un extrait de la messe d'Igor Stravinsky avec l'orchestre de la Société Radio-Canada sous la direction de Igor Stravinsky, le compositeur lui-même. Alors, Éric Houyer, vous avez souhaité faire un parallèle finalement entre Stravinsky et Bruckner, mais qu'ont-ils en commun finalement ?
Ça, c'est très personnel, évidemment. Beaucoup de monde va me désapprouver, mais figurez-vous que Stravinsky et Bruckner possèdent cette même particularité d'être célébrés de façon parcellaire, toujours avec leurs compositions les plus dimensionnées et spectaculaires. Et pourtant, Bruckner s'est également dirigé vers cette musique des petites formes, de l'agrément, du chuchotement, de l'absence de spectaculaire, avec ses motets qui ne sont ni sentimentaux ni romantiques. Ils sont habités d'une lumière intérieure souvent mystique, avec quelques dissonances qui n'auraient pas déplu à Stravinsky. Je précise que ce dernier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était de plus en plus attaché à la religion en vieillissant, quand il a composé ses œuvres sacrées, et qu'il a toujours été croyant, contrairement à l'image que l'on a du personnage. En cela, avec Bruckner, ils semblent communiquer dans leurs œuvres les moins jouées et les plus soumises à leur foi. Nous allons écouter, si vous le voulez bien, l'Ave Maria.
Bien, oui.
Voilà. L'Ave Maria et le Liberame d'Anton Bruckner. Et peut-être que vous aurez envie d'aller découvrir deux monuments de notre histoire de la musique, Stravinsky et Bruckner, que tout semble opposé et qui pourtant convergent ensemble avec une piété qui peut sembler divergente, mais une religiosité convergente.
Thank you.
Le chœur de Riga, dirigé par Sigvard Sklava, dans cet Ave Maria et ce Liberame d'Anton Bruckner. Éric Royer, un sacré parcours musical entre ces symphonies de Bruckner dites qu'on a entendu en début d'émission et ce Liberame. C'est tout un monde.
Toute une vie de mosaïque, de parcelles, de complexité, et de cachotterie, d'œuvres grand air et d'œuvres souterraines.